bienvenue au Polysécur, épisode pour les PME, le grand public. Je suis avec Emeline.
Bonjour, bonjour.
Bonjour, nous allons aborder tout le fait de planifier la perte et le vol de données et incidemment un peu cela quand ça se passe en voyage ou les préparations nécessaires au fait du voyager et de l'équipement ou nos informations. Donc, Emeline, je vais te laisser commencer parce que tu as quand même une bonne base puis on ira avec ça.
Oui, tout à fait. Alors, pourquoi ce sujet aujourd'hui, ce sujet très proche de moi en ce moment, que je trouvais important de mentionner, de sensibiliser au niveau, planification, perte des appareils, vol des appareils. Je suis en voyage en ce moment, petite tranche de vie. Je suis en voyage en ce moment à l'extérieur du Québec et on est chez de la famille et on s'est fait cambrioler. On s'est fait cambrioler, donc plus d'ordinateur, plus de téléphone, plus de toutes ces petites choses-là. Donc, je voulais inciter là-dessus aujourd'hui, matériel physique égale risque de perte, risque de vol. Donc, je voulais qu'on aborde quelques points à mettre en place, peut-être pour les prévenir. Puis, c'est quelque chose que j'abordais déjà, moi, de mon côté en formation, mais là, encore plus perfectionné parce que de le vivre, c'est différent que de voir un petit peu la théorie. Donc, première chose, très importante selon moi, c'est bon, là on s'est fait voler nos ordinateurs. Premier réflexe normalement, c'est d'aller à la police. Mais là on va à la police, puis on porte plainte, effraction, peu importe, mais les choses qu'on a perdues sont ordinateurs. OK ? Quel est le numéro de série de l'appareil ? Comment le reconnaître ? Est-ce que vous avez une photo ? Donc première des choses, et je serais curieuse de t'entendre là-dessus, mais conserver les numéros de série de nos appareils. Est-ce que de ton côté, c'est quelque chose que tu as noté quelque part, ce numéro de série magique ?
Non, très, très peu. De façon indirecte, parce que, disons, au niveau Apple, parce que moi, je suis beaucoup plus dans l'univers Apple avec des Mac, des iPhones et iPads, les numéros de série sont enregistrés ou même à notre compte. Ça, c'est déjà moins pire, puis déjà dans un contexte comme celui-là, on peut déclarer au niveau de Apple la perte de l'équipement et donc le désactiver. Donc, ça enlève la valeur. Pour le voleur, cet équipement-là n'a plus aucune valeur. Ça a un certain avantage, ça protège les données qu'on peut disposer sur ce dit appareil-là. En dehors de cet univers-là, je n'ai pas noté les numéros de série de mes autres équipements, parce que j'en ai d'autres aussi. Et là, si j'avenais dans une situation comme celle-là, je serais un peu plus dans le pétrin. Je ne serais pas capable de justement donner un élément différenciateur pour aider la police à repérer les équipements et dans le fond, correctement l'identifier.
Oui, tout à fait. Donc, si on a un petit devoir tous à faire aujourd'hui, on peut même mettre l'épisode sur pause pour aller fouiller un petit peu. Donc, tu disais, sur Mac, c'est quand même assez facile. Justement, c'est ce qui a sauvé, tu vois. Mon conjoint qui ne l'avait pas fait, cordonnier mal chaussé, on a beau avoir une conjointe dans le domaine, mon chum n'avait pas enregistré son numéro de série, mais heureusement c'était un Mac qu'il avait, donc effectivement on a pu aller rechercher ça, mais sur Windows, effectivement on est un petit peu fait, donc de pouvoir aller bidouiller un petit peu, il y a quelques manipulations très simples à faire qu'on peut retrouver sur Internet pour retrouver ce numéro magique, et ensuite on peut enregistrer ce numéro de série dans un gestionnaire de mot de passe, ou peu importe, de façon sécurisée aussi. Une autre chose qui est un conseil pour la vie de tous les jours aussi, mais qui est encore plus intéressant quand vient le moment de planifier la perte, le vol, de verrouiller nos appareils avec un mot de passe. Un mot de passe, une empreinte digitale, avec un motif aussi, il y a comme des petits codes, des petits dessins qu'on peut faire pour déverrouiller, mais de cette façon, on empêche des personnes mal intentionnées d'accéder facilement à nos appareils. Puis un autre avantage de verrouiller est le fait que l'appareil devient automatiquement inaccessible. Lorsqu'il est inutilisé depuis un certain nombre de minutes, hop, il se verrouille de façon automatique. Même si je le laisse sur une table, que je suis au restaurant, je vais aux toilettes, peu importe, que je m'absente un certain nombre de temps, il sera verrouillé, donc devient beaucoup plus difficilement accessible et le contenu derrière est au moins protégé. Ça, c'est quelque chose que on avait déjà mis en place. De ton côté aussi,
De toute façon, la plupart des appareils mais récents exigent ce genre de choses-là. Maintenant, ils nous laissent même plus le choix de pas l'accepter. On est comme forcé à le faire. On peut le retirer a posteriori, mais en général, à l'activation de l'appareil, c'est un chemin obligé. Ce qui est une très bonne chose en soi, là, autant au niveau des iPhones que des Android, là. Fait que déjà là, ça l'amène à un niveau où les gens sont plus élevés et donc le chiffrement. Chiffrement chez Android, c'est un peu moins présent, par exemple. Il faut être plus vigilant sur quel type d'appareil qu'on choisit parce que c'est pas tous les appareils qui le permettent. Chez Samsung, c'est beaucoup plus là. Les autres, c'est à géométrie variable. Mmh. Du côté du iPhone, ça l'est tout le temps. Et d'ailleurs, moi, j'ai une anecdote par rapport à ce numéro-là et les effets de celui-ci. Mon appareil en voyage, les enfants ont décidé de jouer avec mon appareil tenter de rentrer le code 10 fois. Au bout de 10 fois, l'appareil s'est complètement effacé en voyage. C'est aussi un contexte très difficile. Là, j'ai pas perdu l'appareil, mais j'ai perdu le contenu de l'appareil en voyage. Dans l'ensemble, c'est presque la même chose parce que là j'ai sûr que j'ai pas eu à débourser pour acheter un nouvel appareil, mais l'effet réel sur ma vie était sensiblement le même.
Ah oui, puis le sentiment de un peu la panique, l'urgence, de dire, comme tu disais, ça arrive. On est en voyage, donc pas accès à toutes les choses, pas accès nécessairement à Internet au moment où on le voudrait, peu importe. Donc oui, très beaucoup d'émotions et beaucoup d'imprévus à gérer. Au même titre, hein, tu l'as mentionné tantôt au niveau de la géolocalisation, donc de pouvoir configurer sur nos appareils la géolocalisation, l'effacement des données à distance, ça nous permet de tout simplement géolocaliser la position de l'appareil. Voire d'effacer les données à distance, ça pareil, comme tu mentionnais, bon, avec Mac, c'est quand même assez facile, assez straightforward. Pour Windows, encore une fois, c'est quelque chose à activer, donc avec son compte Microsoft, de relier son appareil, mais c'est quelque chose qui est possible aussi. Puis, bon, la distinction, nous, pour l'avoir vécu, c'est que, bon, même si on n'a plus l'appareil entre nos mains, on a activé la géolocalisation, mais tant que l'appareil reste hors ligne, tant que l'appareil reste... éteint ou peu importe, il n'est pas connecté à Internet, ben ça donne pas grand-chose, tu vois. Là, à ce niveau-là, nous, ça n'a pas donné grand-chose. Est-ce que tu as de l'expérience vécue par rapport à ça?
Pour un ordinateur, effectivement, du moment que tant qu'il ne se branche pas, on n'a aucun pouvoir de le rattraper. Heureusement, de l'autre côté, les appareils mobiles, comme la plupart, sont cellulaires, même s'ils sont disparus, on a le pouvoir de les rattraper. On se du moins délocaliser, ce qui peut aider les travaux, l'enquête de police, c'est justement d'aller retrouver l'appareil et d'appréhender le cambrioleur ou le malveillant qui a voulu nous créer des soucis. Mais non, au niveau des appareils, mais ensuite, comme on est dans un univers Wi-Fi, il faut ouvrir l'ordinateur, généralement protégé par un mot de passe pour activer du Wi-Fi. C'est peu probable qu'on le voit réapparaître, à moins que la personne veuille vraiment faire un effort particulier. Ou si la personne décide de rentrer en mode de recovery, en tout cas pour les Macs du moins, qui vont là être capables d'aller justement aller se brancher avec un Wi-Fi. Et de ce moment-là, il va aller s'identifier chez Apple et la déclaration de vol va venir verrouiller l'appareil. J'ai déjà fait le test sur un Mac. Ça verrouille l'appareil, ça le rend, ça le brique. On n'est littéralement plus capable de rien faire avec l'appareil du moment qu'il a été verrouillé comme ça. Puis ça se verrouille très violemment, fait que tu n'es pas capable de rien faire. Si tu ne le déverrouilles pas, tu n'es pas capable de l'effacer, tu n'es pas capable de absolument rien faire. Ça là, pour la protection des données, c'est merveilleux. Ça le localise, oui, mais pour les laptops moyens. Puis chez certains clients, j'ai vu qu'il y avait des services spécialisés qui ont un coût, par exemple, associé à ça, qui permettent d'arriver à ce genre de localisation-là. On va pouvoir réutiliser plus dans l'univers Windows, qui justement est un peu moins intégré avec ce genre de choses.
Intégré et intuitif aussi, peut-être même, j'ajouterais. Puis, c'est un autre point au niveau des sauvegardes. On perd notre ordinateur, puis là, on perd un peu toute notre vie si on n'a pas d'autres sauvegardes. Hein. Donc, sauvegarder nos données le plus régulièrement possible. Si on est en voyage, je ne sais pas quel est ton point de vue par rapport à ça, mais admettons, j'ai un disque dur externe. De mon côté, mon habitude va être, avant mon voyage, de faire une sauvegarde. Une dernière sauvegarde, puis de le laisser à la maison, de le laisser en lieu sûr, de ne pas prendre le risque de se le faire voler encore en plus. Donc, éviter la perte de temps, faire des sauvegardes régulièrement, faire une sauvegarde avant de partir, utiliser des solutions infonuagiques aussi. On peut toujours récupérer nos fichiers et un plus récent backup. Puis, je pense que c'est ça le plus gros point. Quand on était sur un travail en cours, puis là, on perd le contenu de ce travail-là, C'est très déprimant, très fatigant aussi de dire qu'on doit tout recommencer. Donc, au niveau de la valeur de notre temps aussi.
Oui, absolument. Puis moi, je vais sur ma stratégie, je ne suis pas sur un disque dur externe, mais j'ai plus... soit c'est partiellement infonuagique, c'est partiellement sur des équipements que j'ai à la maison. Donc, puis j'ai très peu de données qui sont physiquement sur ma machine. Donc, si j'ai peur... le dommage que je vais avoir va être minime, voire inexistant. Donc, à ce moment-là, je me sauve de ça. Puis, j'ai eu plusieurs fois dans ma vie, j'ai rencontré des problèmes avec l'ordinateur qui meurt de façon inopinée. Et où je me suis même trouvé dans un cas où j'avais perdu la clé de chiffrement du disque. Fait que j'ai perdu le disque. Fait que pour une raison obscure, j'avais pas réussi à remonter. Fait que à ce moment-là, je suis dans une situation à avoir perdu l'ensemble des données de ma machine de l'époque à ce moment-là. Mais comme je me tiens pas beaucoup, peu ou pas de données, puis plus ces expériences-là m'amenaient à en maintenir encore moins, justement, pour m'éviter toutes ces problématiques-là. Parce que, bon, bref, c'est pas agréable. Donc ça, je me mets à l'abri de ça. J'utilise entre autres Dropbox pour une partie de mes données, mais je mets un box cryptor par-dessus, justement, pour ajouter du chiffrement par un certain nombre de mes données qui sont là. Il y en a qui sont, tant qu'à moi, triviales, fait que c'est pas très grave si le gouvernement américain a un mandat de aller voir dans mes données. Par contre, il y en a de mes données de mes clients, par exemple, qui peuvent se retrouver là-dessus. Pas les données du client lui-même, mais les métadonnées, c'est-à-dire mes facturations, puis ainsi de suite, vont se retrouver sur ce genre de choses-là. Donc, eux vont être chiffrés, justement, parce que je veux pas que cette méta-information-là devienne accessible à des tiers qui sont à l'extérieur. Puis, à la limite, ça me protège moi-même contre des problèmes, des erreurs de manipulation, où par erreur, j'aurais ouvert des droits d'accès sur ces choses-là. Le chiffrement vient m'assurer de couvrir ce genre de choses-là.
Effectivement, parce que de toute façon, l'erreur humaine existe et persiste. Donc, autant se donner des moyens pour éviter que certaines petites choses arrivent, des oublis ou des moments de fatigue ou de stress, peu importe. Puis, en lien avec les sauvegardes aussi, je voulais avoir ton point de vue par rapport à quelque chose que j'avais pas du tout pensé nécessairement avant. Mais quand tu te retrouves à perdre ton ordi, tu te retrouves à perdre ton téléphone mobile et que là, tu te retrouves donc à perdre toutes tes applications génératrices de code pour ton double facteur d'authentification, alors là, c'est le gros, gros bazar. Donc, si j'ai, moi, de mon côté, j'ai eu beaucoup cette réflexion-là, donc dans les derniers jours, à savoir, bon, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, ben, ça va être de, tu vois, avec Google Authenticator, par exemple, on peut générer un seul code QR qui rassemble tous nos codes, toutes les plateformes. Donc, je pense que ça pourrait être une habitude et tout de suite une action à prendre de dire, OK, je génère ce code QR, je le sécurise, je le mets dans un endroit sécurisé. De cette façon, si mon appareil est volé, si mon appareil est perdu, j'ai toujours cette source d'information-là pour quand même pouvoir accéder à mon Google, pouvoir accéder à mes plateformes. Et qu'est-ce que tu en penses à ce niveau-là?
Oui, ben c'est un espace d'inquiétude assez grand. Google Authenticator, heureusement, c'est pas très longtemps qu'il permet justement la sauvegarde. C'était justement une très grande douleur, disons, de pas être capable de sauvegarder ça facilement. C'est sûr qu'il y a des codes de recouvrement qui sont disponibles à chaque set qu'on va, qui nous aident à nous sortir de ce pétrin-là. Et mettre les mécanismes qui sont en place pour nous aider. Le backup ne sauvegarde pas, fait qu'il faut vraiment sauvegarder volontairement, comme Microsoft Authenticator, c'est la même chose. Ça, c'est un élément. Dans la mesure où moi, je mets ça au minimum sur deux appareils aussi, ces codes-là. Fait que si je perds un des deux appareils, au moins j'ai l'autre toujours en relève pour être capable de me sortir du pétrin. Puis c'est assez complexe, comme avec un service duquel on a perdu le deuxième facteur, et de réussir à ne pas déverrouiller notre compte et réaccéder. C'est heureusement d'un côté pour pas que les malveillants puissent utiliser facilement, mais pour nous qui se sont mis dans le pétrin, c'est un chemin qui est assez long, qui peut prendre plusieurs jours avant de réussir à faire. Par exemple, moi j'ai fait l'expérience avec Instagram, ça prend plusieurs jours réussir à récupérer cette clé-là. Puis dans mon cas, j'ai été chanceux parce que j'ai retrouvé le téléphone sur lequel ce code l'est. Puis en même temps, bon. Sauf que moi, c'est pas très grave si je perds mon accès à mon Instagram parce que je fais pas ma business là-dessus. Mm-hmm. Par contre, il y a des gens qui font leur business là-dessus, puis lequel c'est leur moyen de gagner leur vie pour les influenceurs et ainsi de suite. Et si eux perdent l'accès à leur Instagram pendant plusieurs jours, ça peut être plus dramatique au niveau de la génération des revenus, au niveau de génération de leur business, puis vite, ou même au niveau de leur image, de leur business dans lequel, qu'ils font à ce moment-là. Et oui. Moi, c'est ma stratégie, c'est plusieurs appareils, backup. Là, j'ai commencé à utiliser aussi, puis d'ailleurs, en tant qu'embarqué dans le sujet du deuxième facteur sur ces choses-là, Apple, à partir de iOS 15, puis Monterey, c'est la nouvelle version du macOS, vont inclure le deuxième facteur à leur gestionnaire de mot de passe, ce qui va permettre d'être dans un endroit un peu plus intégré aussi. Là. Fait qu'à ce moment-là, il y a des avenues comme ça. One Password le fait aussi. Fait que c'est une autre place où on peut sauvegarder, stocker les deuxièmes facteurs pour nous sauver la vie si on vient à perdre notre appareil. Mais c'est dramatique de perdre son appareil là.
Oui, beaucoup, beaucoup de gestion. C'est pour ça qu'il est important de le planifier. Et pour ça, je pense qu'on en parle aujourd'hui parce que c'est tout plein d'émotions qu'on se serait passé de vivre, très certainement. Puis, mon dernier point, et tu l'as mentionné justement, ce serait au niveau du chiffrement. Donc, chiffrer nos fichiers, les données les plus sensibles. Donc, en les chiffrant, on empêche quiconque d'y accéder. Donc, même si mon ordi se fait retrouver et qu'il y a des dossiers dedans, et que j'ai pas de mot de passe, hein, c'est en worst case, mais ces données-là vont être chiffrées, donc c'est à mon avis une très bonne façon de faire. D'ailleurs, c'est quelque chose que je vais recommander plus, même au niveau des dossiers qu'on archive, qu'on consulte pas tous les jours ou toutes les semaines, mais de mettre une couche de chiffrement comme ça. On ne mise pas uniquement sur nous, notre capacité humaine, mais on va mettre aussi des outils pour nous aider avec la sécurisation de toutes ces belles choses-là.
Oui, absolument. De toute façon, moi, mes ordinateurs, leur disque est chiffré. L'autre fois, ça m'a causé un peu des soucis. Téléphone, la même chose. Les backups, la même chose. Les sauvegardes qu'on obtient, même en info nuagique dans certaines circonstances. Moi, j'utilise BoxCryptor, mais il existe, j'imagine, d'autres produits aussi qui peuvent arriver à des choses similaires. Donc, c'est très, très important. Mais en même temps, le chiffrement par lui-même, c'est pas parfait. Il faut s'assurer que le mot de passe qui ouvre le chiffrement soit suffisamment robuste aussi. Là. Si c'est bonjour 1-2, ça sera pas très difficile aux malveillants de casser ou de déverrouiller le chiffrement. Donc, les deux éléments vont de pair aussi à ce moment-là pour assurer qu'on arrive à l'objectif de protéger nos données, parce qu'on en a tous des données à protéger.
Absolument, absolument. Et on aura l'occasion peut-être d'aborder ces notions-là. Donc, oui, très, très pertinent. Puis, pendant qu'on est en voyage, moi, j'y suis en ce moment. Puis, si on aborde un petit peu plus, peut-être pendant le voyage, quelles sont les recommandations, et que ce soit hors Québec, que ce soit Québec aussi. Hein, je pense que même si on voyage dans le Québec, le risque peut être partout, et d'autant plus quand on mentionne les Wi-Fi, le Wi-Fi public, ou même, tu me diras ce que tu en penses, mais moi, je suis peut-être un petit peu freak par rapport à ça, mais tu sais, un Wi-Fi dans mon Airbnb, pas sûr que je vais être super confortable aussi de me connecter via ce Wi-Fi-là, même s'il est sécurisé, même s'il y a un mot de passe, mais d'aller consulter mes comptes bancaires. On ne sait pas nécessairement avec, tu sais, si on s'est partagé, on a une chambre dans un Airbnb, à quel point est-ce que c'est sécuritaire, à quel point la personne derrière est bienveillante, à quel point est-ce qu'il n'y a peut-être pas d'autres personnes qui ont eu accès à ce mot de passe-là, puis qui passent faire un petit tour. Et tu sais, est-ce que c'est moi qui est trop intense, dis-moi.
Non, mais de toute façon, dans mon dernier voyage, justement, il y avait un Wi-Fi intégré. Ça vaut la même chose pour les Wi-Fi dans les espaces publics. Le mot de passe, ça vaut ce que ça vaut. Donc, puis en même temps, jusqu'à un certain point, dans les cas d'Airbnb, on peut avoir certains problèmes de confiance face aux locataires parce qu'il y a eu des cas en sorte de caméras cachées. Donc, on peut aussi imaginer qu'ils vont écouter sur leur réseau Wi-Fi. Donc, on n'est vraiment pas dans un réseau de confiance. Moi, j'utilise un VPN, tout dépendant des circonstances, soit un VPN qui revient jusque chez nous ou un VPN, Proton VPN, qui est aussi tout à fait équivalent. Sur mon ordinateur portable, le réseau ne lève pas si Proton VPN ne lève pas. Il faut que je lève mon réseau Proton pour accéder aux choses. Ça fait que ça évite que s'il y a un intrus sur ce réseau-là. Parce que la probabilité est quand même là. Ne verra pas le contenu de ma communication d'une sorte. Il faut juste voir la communication protégée par Proton en ce moment-là pour limiter. Puis ça, c'est comme sur les Wi-Fi publics. Je fais exactement la même chose.
Mm-mm. Puis tu sais, il y a un petit bidule qui existe, qui est un routeur Wi-Fi portatif. Donc, un petit bidule que je mets une carte SIM dedans, qui a de l'Internet, bon, qui est relié au satellite. Puis tu sais, à ce moment-là, je peux m'y connecter. Il n'y a que moi qui m'y connecte. Je sais que c'est sécurisé. Est-ce que tu vois des failles potentielles, toi, à ton niveau? Tu sais, si, moi, personnellement, je me dis, c'est vaut mieux ça qu'un Wi-Fi public. Mais de ton côté, est-ce que, avec ton expertise, tu dis, il y a quand même des petites choses à faire attention?
Ça dépend. Oui, ça dépend de quelle est ta menace. Là, on tombe là, côté grand public, ça serait très étonnant. Côté PME, surtout dans le milieu de la recherche, on aurait probablement même ça un certain risque, puisque les réseaux cellulaires ne sont pas d'une très grande sécurité. Ça a été déjà démontré depuis plusieurs années. Anciennement, j'aurais dit oui, pas de problème. Maintenant, ça dépend de ce qu'on fait. Moi, je pense pas que quelqu'un va mettre l'effort de venir hacker mon signal cellulaire pour aller chercher ce genre de choses-là. Je pense pas que dans ton cas non plus, à moins que tu caches des secrets que je ne connais pas. justement, c'est parce que c'est des secrets. Sauf des chefs d'entreprise, des chercheurs de ce calibre-là, je serais, même eux autres, dans cette limite-là, je ne serais pas nécessairement confortable avec ce genre, sans rajouter une couche de VPN par-dessus pour protéger le contenu, encore plus que le réseau cellulaire pourrait le faire.
Ouais, parce qu'on rentre aussi, comme tu dis, dépendamment du risque, mais il pourrait y avoir un risque d'espionnage aussi quand cette personne-là est ciblée. Donc oui, à faire bien, bien attention. Au niveau, on a parlé du Wi-Fi public, mais pareil, au niveau des appareils publics, t'es, peut-être qu'on est dans un hôtel, puis que là, il y a un ordinateur à disposition, il y a peut-être même des laptops à disposition. Donc, faire attention à ce niveau-là, ne pas utiliser ces appareils pour entrer, saisir des renseignements sensibles, comme des identifiants de connexion, des numéros de carte de crédit. Mais éviter de communiquer même peut-être par courriel sur ce type d'appareil-là. Ne pas y brancher de périphérique USB, parce que ça, je pense que c'est un risque, mais ça, c'est peut-être quelque chose qui est un peu plus intégré. Une chose toute bête aussi, qu'on met déjà peut-être en place quand on est hors contexte voyage, mais à faire encore plus attention lorsqu'on y est en voyage, de ne pas brancher d'appareil externe inconnu sur son appareil, hein, que ce soit clé USB, disque dur, des choses qu'on ne connaît pas, on ne sait pas nécessairement qu'est-ce qu'il y a derrière.
Non, mais ça, c'est la classique. Monsieur Robot le faisait, il a parsemé un stationnement d'un poste de police de plein de clés USB justement pour faire que les gens s'infectent. Puis même les bornes de recharge peuvent être problématiques jusqu'à un certain point aussi, parce que dans un certain cas, Le même fil permet de mettre le périphérique en mode recouvrement et donc d'accéder à du contenu qui normalement ne serait pas autorisé ou d'infecter l'appareil, autant iPhone qu'Android, tout dépendant des versions. Je sais que Apple a mis beaucoup d'énergie pour limiter ça. Je connais un peu moins bien au niveau d'Android, mais les dernières démonstrations que j'ai vues, c'était assez aisé de passer à travers puis de forcer les codes automatiquement sur l'appareil à ce moment-là. Donc, d'où l'importance de mettre une protection par code puis de forcer l'effacement après un certain nombre de tentatives infructueuses sur Android. L'iPhone, ça, de toute façon, puis même au-delà du côté d'iPhone, plus ça, moi, je fais lui Android. Après 10 essais, il ne peut pas nécessairement s'effacer, mais il va ralentir la saisie. Il va tranquillement diminuer la capacité aux malveillants d'essayer des codes qui sont... jusqu'à ce que ça peut prendre plusieurs jours entre chaque essai, des fois même plusieurs mois dans certains cas. Fait que là, quand on va trop loin, on perd un peu le contrôle de l'appareil.
Oui, exact. C'est très, très, très intéressant. Je pense que ça amène une belle réflexion. Puis tu vois, ça faisait le tour des petits points clés que je voulais mentionner aujourd'hui. Puis je pense que le mot d'ordre, c'est que malgré qu'on soit en période d'été, période estivale, les cybercriminels, eux, de leur côté, prennent pas de vacances. Donc, faire attention à nos déplacements, faire attention à nos communications, même si c'est un peu plus calme, un petit peu plus light, les communications. Mais c'était pour vous sensibiliser et prévenir tout ça.
Prévenir le malheur, c'est en cas de perte, au moins d'être capable de remonter rapidement. Là. J'espère que dans votre cas, ça va se rétablir rapidement. Là. Même si je pense que vous êtes plusieurs, fait que vous êtes capable de vous entraider. Quand on est plus seul en voyage, c'est un contexte qui est un peu plus difficile. Puis justement, il faut s'y préparer correctement. On s'en rend peut-être pas tout à fait compte, mais notre cellulaire maintenant est rendu tellement personnel. C'est pratiquement pire que de perdre ses cartes d'identité là, si on perd notre téléphone. Puisqu'on est tout notre savoir est là-dedans, là, tous nos contacts, toutes nos informations. Et comme toutes nos informations, on oublie les numéros de téléphone des gens. Avant, dans l'ancien temps, on les apprenait par cœur. Maintenant, on laisse notre téléphone gérer tout ça. Là. Je connais très, très peu de numéros de téléphone par cœur, donc je serais un peu dans le pétrin s'il fallait que je me retrouve dans cette situation-là maintenant.
Ok, oui, mais oui. La planification de la perte du vol des appareils, c'est plate, mais c'est important parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Puis je pense que c'est ça le mot d'ordre de toute façon à chaque fois, c'est d'être le plus préparé possible à un événement de façon à ce que quand ça arrive, parce que ça nous arrivera un jour malheureusement, mais on soit le mieux préparé et qu'on puisse se revirer de bord et se remettre sur pied le plus rapidement possible.
Avec le moins de tracas possible. Merci beaucoup. Très bel épisode encore une fois. J'espère que vous allez justement vous mettre à pied d'œuvre. Moi, je vais aller collecter mes numéros de série sur les appareils qui sont pas faits déjà. Fait que j'allais faire mes devoirs. Quand on est mal chaussé, on est toujours un peu. Je dirais qu'en cyber, les gens sont parfois un peu plus négligents parce qu'ils pensent qu'ils ont des meilleurs réflexes que le commun des mortels. Puis c'est pas tout le temps le cas, puisqu'on peut se faire avoir comme les autres. Puis les malveillants sont de plus en plus sophistiqués. Fait qu'on n'est pas plus à l'abri, là.
Tout à fait. Mais sur ces belles paroles, hein, un excellent été. Puis on aura l'occasion de se reparler très rapidement.
Ouais.